9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. Agnès Hupschmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous avez réalisé un documentaire Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles, qui revient sur cette bataille que se mènent les deux hommes les plus riches de la planète et qui veulent en sortir. Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, Elon Musk, patron de Tesla, qui ont créé leurs deux entreprises spatiales, Blue Origin pour Bezos, SpaceX pour Musk. Et votre documentaire sera diffusé dimanche soir à 21h sur France 5. C'est dans le cadre de la collection de la série Le Monde en Face, présentée par Mélanie Taravant. D'abord, question, pourquoi eux deux? Quand on voit le doc, on a l'impression qu'on est dans la vie étant long fleuve tranquille. On a l'impression que c'est deux enfants qui ont été séparés à la naissance, mais qu'ils étaient faits pour se retrouver.
C'est un peu ce qu'on a découvert en faisant ce film. Mais moi, je ne m'y attendais pas forcément. Parce qu'au départ, c'était vraiment l'idée de faire un film géopolitique qui révèle un petit peu, on va dire, qui raconte la compétition spatiale à travers deux personnages emblématiques que tout le monde connaît. C'était une porte d'entrée, on va dire, pour pouvoir parler de la nouvelle compétition spatiale. Puis on a découvert qu'effectivement, finalement, ils avaient parfois aussi des points communs assez surprenants.
Qui remontent à l'enfance. Par exemple, la référence à la guerre des étoiles, c'est drôle, mais c'est aussi un peu vrai. Le nom de la fusée Falcon donnée par Musk à sa fusée, c'est pas pour rien.
Non, c'est le nom de Millennium, le Falcon Millennium, le fameux de Star Wars. Il a plein de trucs comme ça, hein. Il fait plein de jokes, de rapports avec toutes ces lectures enfantines de science-fiction qui l'ont vraiment imbibé au plus profond.
Alors, vous avez rencontré beaucoup de gens pour raconter l'ascension, la folle ambition de ces deux-là dans la conquête de l'espace. Qui avez-vous rencontré? Comment vous avez travaillé? Quelle était votre feuille de route?
C'était très compliqué parce que l'espace, c'est un milieu fermé, c'est un milieu technique, c'est un milieu difficile à pénétrer parce que traditionnellement assez stratégique, donc les portes ne sont pas à grande ouverte. Donc c'est vrai que particulièrement aux États-Unis, on n'a pas été reçus à bras ouverts et ça a été un dur travail que de s'approcher de ces gens-là. Et si on rajoute en plus le fait qu'on s'intéressait à Musk et à Bezos, qui sont parmi les deux hommes les plus riches du monde et qui sont totalement cloisonnés, verrouillés, pareil, leur communication est archi fermée, personne ne les approche, ils ne donnent pas d'interview à la presse étrangère, enfin bref. Donc c'était quand même très galère. Au final, en travaillant longtemps, etc., on a fini quand même par décrocher des gens qui ont travaillé avec eux pendant de longues années, des insiders, des gens qui étaient vraiment, qui nous ont ouvert les portes, en tout cas, même si généralement, c'est des gens qui venaient de partir après avoir travaillé 15 ans, 10 ans à l'intérieur de ces entreprises et qui les connaissent bien, et qui connaissaient leur façon de travailler, plus des analystes, des gens qui connaissent bien ce milieu et qui permettaient de prendre un petit peu de hauteur sur l'impact que ces deux barons de l'espace ont pu avoir.
Alors, votre doc commence par les débuts économiques, mais surtout déjà médiatiques des deux jeunes patrons. On est au tout début des années 2000, Jeff Bezos a fait fortune grâce à Amazon. Musk, en revendant sa première entreprise et également ses parts dans PayPal, est-ce que les médias américains s'intéressent à l'époque de la même manière à ces deux patrons?
Je pense qu'au départ, comme il est plus jeune, clairement, Bezos est un grand nom et il est millionnaire et très connu avec Amazon avant Elon Musk. Voilà, Bezos est devenu, a fait la une du Time Magazine bien avant Elon Musk. Elon Musk est encore un jeune millionnaire de la Silicon Valley, qu'on regarde un peu avec le sourire, on va dire.
Avec le sourire et puis ça devient de plus en plus sérieux. On est en 2003, vous avez rencontré un journaliste qui avait enquêté en 2003 donc sur Jeff Bezos et il découvre que le jeune millionnaire a une deuxième passion, une deuxième entreprise secrète basée à Seattle. Il se rend sur place pour enquêter et là il découvre le secret de Bezos. Incroyable épisode raconté par des spécialistes et des journalistes extraits.
J'ai roulé jusqu'à une sombre banlieue industrielle de Seattle. Et là, il y avait un entrepôt sur lequel était écrit Blue Origin. Quelques camions et des motos étaient garés devant. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Bon, maintenant, une petite confession. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai fouillé dans la poubelle et j'ai pris les documents qui se trouvaient sur le dessus de la pile. Le premier document disait, c'était vraiment un miracle, que Blue Origin préparait une fusée appelée New Shepard. Son but était de lancer le tourisme en orbite basse. La mission de cette entreprise était de permettre un jour à des millions d'humains de vivre et travailler dans l'espace.
Anecdote assez incroyable, vous y croyez ou pas? Il a vraiment fait les poubelles?
Ah oui, complètement.
Ah bon?
Oui, je pense que. Alors,
ils n'avaient pas de broyeurs, parce que normalement, quand même, on a des broyeurs.
Bon, mais à l'époque, Blue, ça s'appelait Blue, on disait même pas Blue Origin à l'époque, c'était totalement, totalement inconnu, et personne ne s'intéressait à ça, et personne ne pouvait même imaginer que ce délire spatial de Jeff Bezos, dont il avait parlé qu'une seule fois à la télé, comme sous forme de blague, était vrai. Et je pense que Brad Stone, qui est un journaliste très sérieux, qui jamais aujourd'hui se permettrait de faire une chose pareille, il le raconte vraiment comme une confession dont il a même un peu honte, mais c'est vrai, oui.
Bezos n'avait n'avait pas réagi à l'époque.
Non, Bezos n'avait pas réagi.
Les deux hommes vont lancer un projet spatial chacun de leur côté. Est-ce qu'ils se connaissent à l'époque ? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en concurrence pour la conquête spatiale ou pas du tout ?
Oui, alors en fait, ils se sont croisés un petit peu et je crois que ça n'a pas du tout accroché, que ça a participé aussi j'allais dire. Ouais. Et puis, ils sont très différents. Enfin, je veux dire, c'est vrai que Musk, c'est ce type qui voulait un peu renverser la table, disrupter le tout, qui se prenait un peu pour le meilleur et qui donnait des conseils, je crois même d'ailleurs, à Bezos au début. Et Bezos, il se considère un peu comme le roi du monde aussi de son côté. Donc, clairement, ça n'a pas accroché entre eux.
Jeff Bezos a dû attendre 2015, donc 12 années, pour qu'il communique en tant que patron de Blue Origin avec son projet de fusée New Shepard. Première fusée réutilisable, ce que ne faisait pas la NASA. C'est quand même expliquer que ces gens-là sont très, très, très en avance sur leur temps par rapport à la NASA, qui était l'organisme américain qui disposait de pouvoir et de moyens et de financement considérables. Ils ont doublé. La fusée doit atterrir à la verticale sur la Terre. La mission est réussie. Pourquoi attend-il autant de temps pour assumer d'être le patron de Blue Origin ?
Alors, ça, c'est le grand mystère de Jeff Bezos. C'est vrai que je pense que, de toute façon, Jeff Bezos est quelqu'un qui, contrairement à Musk, travaille avec une communication du secret. C'est son grand truc, même pour Amazon, etc. Et il a reproduit ça pour les fusées. C'est vrai qu'il a choisi, il avait sa philosophie qui était gradatim ferocitaire, pas à pas, férocement. Ça voulait dire, en fait, on ne parle que quand on sait, on avance lentement et on ne montre les choses que quand c'est fait et quand on sait les faire. L'inverse, en fait, de Musk. Musk, au contraire, il dit qu'il va partir sur Mars l'année prochaine. Hein. Donc, alors qu'évidemment, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est vraiment deux politiques radicalement différentes. Et c'est vrai que Bezos n'a commencé à communiquer qu'une fois qu'il a été capable de faire des grandes choses, on va dire.
Puisqu'on parle de communication, il faut dire qu'il y a Twitter. Pourquoi j'en parle ? Parce que Twitter va peut-être être acheté par Elon Musk. On en parle avec vous parce que c'est aussi un volet très important de cette guerre des étoiles, c'est la communication. On est avec Agnès Huchmann. Le documentaire s'appelle Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles. On n'attend pas l'année prochaine, on arrive tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Agnès Huchmann, réalisatrice, elle signe Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles. Les mots ne sont pas galvaudés, c'est dimanche soir, 21h sur France 5. C'est une guerre des étoiles, on l'a dit, Jeff Bezos a lancé cette fusée Blue Origin, c'était la première fusée réutilisable. Plutôt, il est le patron de Blue Origin, la fusée c'est New Shepard, première fusée réutilisable. C'était en 2015, cette première réussite. Un mois après le lancement et l'atterrissage de ce projet, Elon Musk contre-attaque. Il propose avec sa fusée Falcon 9 la même chose que Bezos, une fusée qui va revenir sur Terre, réutilisable. Elle vole jusqu'en orbite, beaucoup plus haut, plus loin que la fusée de Jeff Bezos. C'est en gros à qui aura la plus grosse. Falcon 9 atterrit à son tour à la verticale. Enthousiasme dans le clan Musk, mais la fête est gâchée par un tweet de Jeff Bezos.
C'était un grand soulagement et c'était vraiment génial.
C'était un grand moment pour SpaceX et Elon Musk, mais qui a été un peu refroidi quand Bezos a tweeté « Bienvenue au club », comme pour lui dire « Je t'ai devancé avec New Shepard ».
Entre le clan Bezos et le clan Musk, la guerre des tweets est déclarée.
C'était clairement la mauvaise chose à dire. C'est différent d'atterrir après avoir fait juste un saut de puce.
Il est évidemment beaucoup plus difficile de lancer et de faire atterrir une fusée qui va jusqu'en orbite, notamment en termes d'énergie. Ce que SpaceX a fait était bien plus difficile.
Ce ne sont que des mots. Mais c'est d'une violence extrême.
Ah oui, ces deux-là ont joué à un jeu vraiment incroyable sur Twitter, mais alors avec un atout gagnant, j'allais dire, pour Elon Musk, parce que Elon Musk, à l'époque où ça arrive, il est déjà le roi de Twitter. Mmh. Il a un nombre de followers absolument hallucinant, c'est un influenceur incroyable, et Bezos, lui, s'est inscrit sur Twitter en 2015 à la suite de cette première victoire. Donc il n'a absolument pas de résonance. Et quand effectivement il s'amuse à titiller comme ça ou à essayer de prendre un peu position et de communiquer un petit peu, il se fait laminer par l'armée de fans d'Elon Musk qui lui disent mais retourne chez toi. En fait, tu n'arrives pas à la cheville des exploits de SpaceX.
Votre doc s'appelle La guerre des étoiles, mais c'est également une guerre de communication. Quels sont les enjeux, notamment par exemple pour trouver des annonceurs ? En quoi la communication est importante dans leur lutte pour le spatial ?
Alors, l'enjeu principal, on va dire, pour eux, effectivement, c'est, bon, d'abord, évidemment, ils doivent récolter de l'argent, dans l'idéal des contrats, hein, plutôt avec la NASA. C'est là que ces grands contrats, on va dire, qui étaient jusque-là réservés à l'industrie spatiale lourde, comme Boeing, Lockheed Martin, etc. Le but de ces deux entreprises, c'est d'arriver à en décrocher pour pouvoir effectivement faire du bénéfice et pour pouvoir réinvestir potentiellement dans des nouvelles fusées plus grosses, etc.
Télescopage avec l'actualité. tweeté, j'ai entendu ça ce matin, pour la première fois, Boeing a réussi à envoyer une fusée qui va rejoindre la station spatiale. C'est quand même hallucinant d'imaginer que des entrepreneurs qui sont partis de rien doublent une firme comme Boeing. C'est quand même absolument dingue. Pensez que si Musk devient propriétaire de Twitter, je vais un peu loin dans la science-fiction, il pourrait couper, bannir le compte de Jeff Bezos?
Non, je pense qu'il ne le fera jamais. Justement, c'est contre sa philosophie de la liberté de parole absolue, liberté totale. Enfin non, je crois que vraiment, il ne le fera pas. Après, bon, je ne suis pas dans sa tête. Hein, il est suffisamment versatile pour que je ne me risque pas à dire quoi que ce soit sur Musk.
Il se dit libertarien. Oui. Elon Musk est actuellement en train de construire une gigantesque fusée à Boca Chica. C'est au Texas, c'est près de la frontière mexicaine. C'est pour aller sur Mars. La fusée est construite en plein air, sous les yeux de tous. Là aussi, c'est la transparence américaine. On n'imagine absolument pas ça en France ou en Guyane. Tous les fans de Musk et les influenceurs viennent filmer l'avancée des travaux. Une vidéo qui diffuse sur les réseaux sociaux. Extrait.
Nous sommes en direct de la Starbase au Texas. Je m'appelle Jessica Kirsch.
Des fans comme Jessica, très actifs sur les réseaux sociaux, filment et dissèquent chaque étape de la construction de la fusée de SpaceX et répandent dans le monde la religion martienne d'Elon Musk.
Nous sommes en train de regarder le bras de déconnexion rapide attaché à la tour d'intégration de lancement orbital. Ici, sur le pas de tir de la Starbase. C'est une nouvelle ère spatiale. Je suis tellement excitée. J'espère que j'irai à bord d'un de ces vaisseaux un jour. J'adorerais ça.
Il faut dire que Bezos a lancé la construction d'une fusée de 120 mètres de haut pour situer ses 4 fois Ariane 5. 120 mètres, c'est la longueur d'un terrain de foot. Imaginez 120 mètres de haut, une fusée qui décolle. Vous étiez dans le désert, c'est impressionnant. Rien que nous, en tant que spectateurs, on est impressionnés.
C'est Musk, hein, c'est pas Bezos.
Musk, pardon, mais
oui. Et effectivement, oui, ce lieu est absolument incroyable. Hein, cette Starbase à Boca Chica, on voit, il en construit plusieurs, hein, en plus. Voilà. Donc on voit ces fusées absolument gigantesques, on peut presque les toucher. Alors qu'il faut quand même savoir que normalement, l'industrie spatiale, ça se fait dans des usines fermées, clos. Pour rentrer, il y a tout un protocole hyper compliqué.
Et on a peur de l'espionnage des Russes,
absolument.
Notamment.
Absolument. Non, mais tout est complètement cloisonné, fermé.
Là, t'es ouvert.
On ne peut pas rentrer un cheveu parce qu'on a peur que ça abîme les moteurs. Ouais. Enfin, c'est complètement délirant. Et lui, il fait ça près de la mer, en plus, avec le vent, le sel, le sable. C'est absolument incroyable.
On voit Musk, dans votre documentaire, prendre son temps pour faire visiter son chantier à des geeks, à des influenceurs. Il a quelle relation avec les médias traditionnels? On a l'impression qu'il les tient un peu à l'écart.
Oui, c'est pas une impression, en fait. Il déteste les médias traditionnels. Ça lui va pas du tout. Il préfère de très très loin maîtriser sa communication en parlant justement à des fans, à des geeks qui parlent le même langage que lui. Des gens, effectivement, à qui il donne le sentiment qu'il est transparent, que c'est une grande aventure que tout le monde partage. Au contraire, il ferme sa porte aux grands médias.
Et si le geek est un espion chinois ou russe ou à la solde des gouvernements de ces pays-là?
Assez risque et péril.
Ça sera l'objet d'un prochain documentaire, peut-être. Merci beaucoup, Agnès Hübschmann. Musk contre Bezos, la nouvelle guerre des étoiles, c'est dimanche soir à 21h sur France 5. C'est dans le cadre du Monde d'en face, présenté par Mélanie Taravant. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci
dans Culture Média, l'émission qui continue évidemment après les infos de 10h. On va retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il va nous expliquer pourquoi il a beaucoup souffert cette semaine pour les candidats du Rassemblement National qui sont passés à la télé. Notre invité, c'est un comédien, et quel comédien, André Dussolier. On parle de cette fiction d'Arte, c'est ce soir Juliette dans son bain. Et puis dans les indispensables, on va clore notre semaine spéciale consacrée à la 3e édition du prix littéraire Europe 1 GMF. 5 romans en lice, Nicolas Caro nous présente le 5e aujourd'hui évidemment. Et puis Sébastien Bordonnave va nous parler d'un recueil consacré à une héroïne ancienne, historique de la BD, c'est Mafalda, Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.